manque pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes en notre compagnie pendant une heure sur les ondes de Radio Campus 106,6 pour parler bien sûr d'actualité geek et ludique aujourd'hui. Nous sommes trois pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut tout le monde.
Aujourd'hui, une émission qui sera très musicale puisqu'on a beaucoup d'albums à écouler, voilà, et vous nous connaissez, c'est pas forcément de bon augure. Et bien sûr, des petites news sur l'agenda et plus si affinité. Alors, on peut tout de suite commencer par un petit hommage à une personne qui nous a quitté, Dominique, récemment, et qui est un inventeur qui est parti à l'âge de 81 ans.
Oui, l'anglais Sir Clive Sinclair. Alors Sinclair, c'est un nom connu pour ceux qui ont connu l'époque des micro-ordinateurs.
Ah, rien à voir avec la techno ou la musique.
Non, c'est pas Bob Sinclair. Mais, ni comment ça, le personnage de Chapeau Melon, non pas Chapeau Melon, Botte de Cuir.
Merde.
Bon, ça me reviendra plus tard, Sinclair. Mais c'est pas grave. Lord Sinclair,
ouais, c'est voilà, ça.
Incarné par Roger Moore, dans Amicalement Vôtre, voilà. Alors, rien à voir, quoi que, on ne sait pas.
L'inventeur du ZX Spectrum...
Du ZX 80, 80, puis ZX 81 et le ZX Spectrum et d'autres aussi.
Alors, considéré à l'époque un peu comme l'ordinateur bas prix.
Ah, c'était vraiment le chip de ces chips. Et, au niveau de la fin, la qualité, c'était moche, bon, comme tous les micro-ordinateurs de l'époque. Et il faut dire qu'à l'époque, acheter un Apple ou je ne sais quoi, c'était une fortune. Donc, mettons que ça coûte l'équivalent de 1000 euros maintenant. Ça coûtait 100 euros, quoi. On pouvait les commander. Je me souviens que dans les sciences et vie, il y avait des encarts pour commander ton ZX Spectrum pour genre 790 francs, quelque chose comme ça. Et avec, il y avait un cas de mémoire. Il y avait, un clavier en une espèce de gomme terrible pour en avoir manipulé avec des, c'était horrible ce clavier. Tous les gens qui l'ont touché au moins une fois s'en souviennent, c'était moche. Le ZX Spectrum avec tout, un clavier en caoutchouc, ça s'enfonçait, les touches restaient coincées, mais oh là, c'était terrible. Au moment où il y a de la couleur, et il avait inventé plein d'autres choses, il a inventé des mini-voiturettes, voilà.
Électriques,
pour l'époque, dans les années 80, et c'est tout. Mais oui, il était connu en Angleterre pour ça, quoi.
L'inventeur de la première calculatrice de poche également.
Oh, ah bon, je ne savais pas.
Juste avant, enfin, quelques années avant que Texas Instruments arrive sur le marché et domine un peu les cartables de nos étudiants.
Voilà, mais ça m'a fait tout bizarre de revoir ce nom, puisqu'il ne faisait plus rien depuis un moment, quoi. Mais c'est une légende, cet homme.
Voilà, donc il était constamment en train d'innover. Apparemment, oui, il était encore en train de plancher.
Des projets, oui.
Voilà, et maintenant.
Peut-être une fusée dans l'espace, je ne sais pas. Il paraît que c'est à la mode. Quelques années de plus, il l'aurait fait. Hein.
Mais attends, mais j'ai quelques petites actualités sur l'espace, bien sûr, mais qu'on va garder comme d'habitude pour la fin d'émission.
T'as commencé à économiser quelques millions de dollars là, pour partir dans l'espace en tant que touriste.
Ouais, je vais attendre que ça baisse un peu.
Ou alors avoir un patron très généreux qui paye ton billet comme celui, les premiers qui sont partis là.
Non, mais pour François, tu dis que Mars, en fait, c'est une planète remplie d'épices, c'est pour ça qu'elle est toute rouge, et dès demain, il t'a un prêt et il s'en va, quoi.
La prochaine fois que ton patron t'invite au resto, tu dis non, je préfère payer, mais dans quelques années, vous me paierez un voyage. On ira ensemble dans l'espace et vous paierez le ticket. C'est ça. Pas marché.
Alors, Reynald, je ne rebondirai pas sur ta référence à Dune, puisque nous ferons une émission spéciale la semaine prochaine, je pense. Et tu auras le temps, comme ça, d'aller au cinéma.
Ah, je pense qu'on a tous un empêchement, pas vrai, Dom?
Une bonne excuse.
On va parler également...
C'est un salon du jeu, mais à 1000 km d'ici.
Oh zut, ça tombe bien. On va parler d'un petit événement qui va se passer très prochainement. Et c'est la Louche d'Or qui aura lieu à Lille. C'est bien ça?
C'est déjà. Je me demande si c'est pas déjà commencé, parce qu'en fait, on parle de la fête de la soupe qui avait lieu tous les ans à côté de la Maison Folie d'Oisem. Alors, je sais plus à quelle période. Je trouve que c'est le 1er mai, tout simplement. C'était le jour du 1er mai. Mais bien sûr, ça fait 2 ans que ça a été annulé, parce que vous savez pourquoi. Mais la Louche d'Or, c'est l'association qui gère ça, je dis pas de bêtises. L'événement marche toujours. Enfin, genre la fête de la soupe. Alors, il y a la fête de la soupe, mais on peut pas se réunir pour partager de la soupe ou pour faire de la soupe, etc. Mais il y a toujours le côté. Il y avait l'événement lui-même qui était aussi aussi l'occasion, sur scène, d'avoir beaucoup de musique live de tous les coins de la planète et des gens qui se rassemblent pour écouter de la musique, boire de la bière et déguster plein de soupes, et faire des jeux, etc. Donc c'est un événement toujours sympa. Donc il suffit d'aller sur la page. Alors c'est déjà commencé, il y a des événements un petit peu tous les jours, un petit peu partout. Alors je ne connais pas par cœur, mais si vous allez sur la page Facebook de La Louche d'Or, tout collé, vous aurez des informations. C'est déjà parti.
Tu as aussi le site lalouchedor.com qui reprend pas mal de renseignements.
Alors puisqu'il va y avoir donc le Festival international de la soupe qui va proposer donc un concours humoristique et assez festif. Alors tout ça se passe à Oisem, hein, si je me.
En fait, il y a des choses un peu partout. Il y a des choses à Roubaix, il y a des choses à Los. Enfin, il y a vraiment des choses un peu partout, quoi. Voilà, moi je tire les informations du Facebook de La Louche d'Or. Il y a plein. Le dimanche 3, il y a Métallu, ALM, il y a Saison 0 à Roubaix. Le dimanche 10, il y a plein de choses des fois avec des repas, des concerts. Vraiment, il y a des tas de choses. On va pas commencer à les citer ici. Mais donc toujours dans l'esprit de la fête de la soupe.
En
espérant qu'on puisse le faire pour de le prochain 1er mai.
Le 25 septembre à Oisem, ça va être la fête justement pour marquer le grand coup en collaboration avec tous les événements que tu viens de citer.
Voilà, donc c'est le lancement officiel, on va dire.
Alors, vu qu'on parle de soupe...
Ah. Et de musique.
J'ai bien ouvert le sujet.
La Louche d'Or, la soupe et la musique sont séparées. Mais il y a des artistes qui aiment bien mélanger la soupe et la musique. C'est ça que tu veux dire?
Ils en ont même fait leur métier.
Exactement.
On sent que c'est la rentrée et que les gens se sont dit, est-ce que ça serait pas le moment opportun pour vendre un peu d'albums? Donc on a Monsieur Tout le Monde et Monsieur N'importe qui se lance dans la musique. Il y en a d'autres qui sont là depuis longtemps et on se demande.
Il y a des artistes qui ont pris ces noms-là pour de vrai. Il y a des noms tellement ridicules maintenant, entre Ours, Poil de Carotte ou Zigouingouin, je sais pas quoi. Je suis sûr qu'il y a des groupes qui s'appellent Monsieur Tout le Monde et Monsieur Personne.
Alors est-ce que vous voulez commencer par un vieux de la vieille ou plutôt par un nouveau qui se lance dans la musique?
J'ai peur.
Alors j'ai par exemple Daniel Auteuil.
Qui n'est pas un nouveau, il a déjà chanté lui il y a longtemps.
C'est vrai.
Ouais, il avait fait un album, un 45 tours peut-être.
Alors. Il nous propose un nouvel album qui s'appelle « Si vous m'aviez connu ». Et ici, je vous propose, on va s'écouter, je vais le faire, puisqu'il y aura deux types d'albums, ceux qui viennent de sortir et ceux qui sont peut-être intéressants, et ceux-là, on laissera ouvert à l'antenne.
Pour l'instant, ça va. C'est pas lui qui joue.
Non, il s'occupe que de la que du chant. Voilà, c'était Daniel. Secondes.
Un album
sympa,
composé à la guitare, apparemment, ce qu'on entend tout à fait là. Par lui-même.
Dans Arles, où sont les aliscans, quand l'ombre est rouge sous les roses, et clair le temps.
Est-ce que c'est pas un peu trop tard pour se mettre à la musique?
Ah, c'est étonnant, c'est vrai que j'avais pas entendu Daniel Auteuil depuis longtemps, en tant que comédien. Hein. C'est vrai que je viens de voir 71 ans. Trop lourd. Parce qu'il avait chanté dans les années 80, mais il était encore tout jeune. Donc
parle tout bas si c'est d'amour. Oh, oh, tu tombes. La, 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 la.
C'est intéressant.
J'avais plus de temps pour écrire les lyrics, alors... J'ai presque l'impression que c'est une parodie.
Non, c'est un comédien qui a voulu se faire plaisir, c'est pas le premier.
C'est un comédien qui a entendu Chrono travailler sur un nouvel album, il s'est dit, allez, après ça, tout le monde a sa chance.
Il a demandé à Gaëtan Roussel, le leader de Louise Attack. C'est lui qui a arrangé l'album. Arrangé. J'aime bien ce terme. Il a rattrapé peut-être, je ne sais pas.
Et que se taisent les colombes. Parle tout bas si c'est d'amour.
Ça n'a pas dû passer beaucoup sur Radio Campus, cet album.
la chanson française, ça passera. On n'a écouté qu'un bout, là.
Ah bon, faut l'écouter ?
Alors, j'ai d'autres musiques qu'on peut s'écouter. J'ai par exemple Laurent Garnier, un DJ de musique électronique.
Oh, très connu, oui. Un des papes de la techno, de la French Touch, comme on dit.
C'est ça, et qui a fondé son propre label. Alors, c'est peut-être de la musique qui sera plus appropriée d'écouter tranquillement. Alors, je vous propose donc pour son album qui s'appelle The Limananas.
Non, The Limananas, c'est le groupe avec qui il a fait le travail. Donc c'est une espèce de duo, mais à plusieurs.
Alors la musique s'appelle Au début, c'était le début.
Pousse ton bras que je m'allonge.
L'album s'appelle De Película.
Espagnol. Donc c'était Bachoumi, c'est ça?
Non, il est pop.
Ah
ouais, c'est oui. un mix entre les deux, je pense.
On est trop bien français, là. Ouais. Incroyable.
Le temps que vous vous bataillez pour savoir qui chante vraiment, j'ai aussi à te trouver quand même un monsieur tout le monde qui a fait un album. Donc je te laisse le découvrir après, plus tard. Mais par contre, j'ai essayé de regarder pour Monsieur N'importe qui, mais il y avait... tellement de résultats de recherche pour Rémi Gaillard que j'ai abandonné. Gaillard, ouais, voilà.
Très bien. Au début, c'était le début, donc Laurent Garnier.
Avec The Limignanias.
Voilà. On continue cette émission de Heureusement en France avec quelques autres petites actualités sur l'agenda. Alors, on a pu voir ça très prochainement. Enfin, on va le voir du coup le 24 et le 25 septembre. On part à Templemars.
C'est pas très loin. Salle des Bonnets. Il y a un H, donc j'imagine que c'est Hubert ou Honoré Desbonnets. 24 et 25 septembre, le 14e salon du polar. Alors déjà, c'est intéressant en soi parce que c'est le polar. Mais le vendredi soir, donc le vendredi 24 et samedi 25, le vendredi soir, c'est une soirée à vous de jouer à la médiathèque. Donc en gros de 17h à 22h avec en gros des jeux apéro, un Cluedo géant qui est animé. Et donc des jeux autour du polar. Donc ça peut être intéressant.
Et, peut-être des escape games.
C'est possible. Et le samedi, donc de 18h à 18h, la salle Henri Desbonnets, j'étais pas loin, c'était Henri. Des dédicaces avec 26 auteurs de Pellard qui sont présents, parmi lesquels, au hasard, Franck Tillier, le plus connu, originaire de qui habite dans le Nord, je crois, qui vend, tous ses bouquins se vendent par milliers à chaque fois. Donc très intéressant.
À voir, et puis c'est pas très loin de chez nous, ce qui est super intéressant.
24 et 25 septembre à Templemar.
On a également le Mad Max Fury Road, qui aura lieu le 25 septembre, donc il va falloir... Comment ça, non?
Oui, mais c'est pas un salon.
Non, pas un événement.
Oui, oui. Une vente aux enchères, donc sur un site dont on avait parlé, un site de vente aux enchères américain qui s'appelle Lloyd's Classic Auction. Là, c'est Lloyd's Classic Car Auction. C'est les ventes qui... Ils font toujours des ventes autour du monde de cinéma. Ils vendent des produits, des articles qui viennent de célébrités, de la musique, etc. Et là, c'est des voitures. 13 voitures, enfin véhicules, ça ressemble plus à David, qui viennent, on t'a cité long, du film Mad Max Fury Road de George Miller. Alors, est-ce qu'elles sont vendues en l'état? Faut regarder le film pour voir.
Avant ou après cascade?
Voilà, c'est ça. Elles sont pas forcément, je suis pas sûr qu'on puisse rouler avec dans la rue.
Ah non.
Vu l'équipement qu'il y a dessus.
Même sur autoroute allemand, je pense pas.
Non, je crois pas, mais nulle part en fait. C'est vraiment de la voiture de collection, donc. Il y a le Warwick de Furiosa. Le Warwick, c'est le gros camion, je pense, mais c'est ça. La Ford Falcon de Max. Ah, et le Doof Wagon, c'était la voiture qui avait des enceintes. Qui avait des enceintes et qui projetait de la musique à mort dans le film. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce film.
C'était plutôt pas le camion avec le guitariste qui était enchaîné dessus. Là, qui était,
oui, c'est ça. Et il y avait des enceintes.
Et des enceintes.
Alors, est-ce que tu peux t'accrocher et jouer de la guitare pour projeter la musique?
Ou alors tu mets de belle-mère dessus en disant la prochaine fois que tu viens à l'improviste. Allez, hop.
Donc, alors, il n'y a pas les prix. Il y a un lance-flamme aussi sur la voiture, mais je ne suis pas sûr qu'il soit actif. Je ne suis pas sûr qu'il soit autorisé à rouler. Non, vraiment pas.
Tu refais le plein, tu te trompes de trou, tu remplis.
Mais là, on ne parle pas de reproduction miniature, hein, voilà, ou faites en Lego, quoi que ce soit. On parle des vraies voitures.
Alors, c'est fou parce que ça va se vendre à un prix exorbitant, alors que la majorité de ces voitures ont été récupérées dans des décharges australiennes.
C'est ça qui est génial.
Avec leurs accessoires y compris. Donc, ça va vraiment plaire aux fans du film.
Je sais pas, je me rappelle plus quel était le budget de ce film, enfin, il y avait à l'écran, mais le tout premier, donc Mad Max, fait aussi par George Miller dans les années 70, fin 70, je crois, le budget était ridicule parce qu'ils avaient tourné entre copains dans le désert avec des voitures de récupération et c'était déjà gênant. C'est pour ça que c'est parti. Je crois qu'il avait coûté genre 25 000 $ australiens et ça avait rapporté je sais pas combien. Donc là, c'était le budget un peu plus, mais il y a une suite qui doit venir, une espèce de spin-off autour de l'héroïne Furiosa dans les années à venir, je crois.
Alors, ils sont tellement sûrs que ça va se vendre hyper cher qu'ils sont prêts à les envoyer partout dans le monde. Et peu importe...
Ah, si la livraison est incluse, oui.
C'est ça. Peu importe la monnaie que vous allez utiliser. Et ici, je parle bien aussi de crypto-monnaie.
Ouais, bien sûr.
Donc, à mon avis, je sens que certains qui ont investi très tôt dans le BTC vont peut-être se faire plaisir à se balader dans les rues avec une voiture.
Bah, après, nous, comme un des mortels, acheter ça, tu vas l'entreposer où?
C'est ça, c'est de la pure collection.
Ouais, c'est pour pur collectionneur qui au moins qui a un entrepôt ou un stockage adapté.
Mais alors, c'est la grande question, est-ce qu'il y a des réglementations selon les voitures qui peuvent circuler? Alors, je sais qu'il y en a pour tout ce qui est tank ou véhicule militaire. Est-ce qu'un véhicule customisé comme ça, puisqu'il y en a qui se baladent par exemple avec la voiture de Batman, peuvent très bien rouler dans la
rue. Oui, il y a des classifications spéciales, des permis spéciaux, comme pour les voitures vintage, ça appartient à un certain âge, les voitures de collection, les voitures de sport, c'est très, très, très limité. Après, il y a certains événements, voilà, quand il y a une course ou une démonstration. Voilà, quand j'étais allé au Bitune Rétro il y a quelques semaines, il y a des voitures qui passaient pour faire le défilé, le concours de beauté des voitures. Etc. Bon, ces voitures roulent, hein, mais les propriétaires ne les sortent pas forcément. Mais là, pour une exposition, c'est tout à fait adapté. Il faut prévenir à l'avant. Mm-hmm. Mais tu ne peux pas faire n'importe quoi, non.
Alors,
surtout au niveau de la consommation, ça doit polluer.
C'est ça.
Est-ce que tu as ta vignette numéro 2 dessus?
Combien consomme le lance-flamme?
Tu n'as même pas droit à la vignette critère ici, c'est rien du tout. Alors, vu qu'on parle un peu de films, on peut parler d'un événement qui est le Ciné Comédies, qui va permettre d'accueillir dans les Hauts-de-France la présipotée de Groland, puisque pour cette nouvelle édition qui se passera du 29 septembre au 3 octobre, le festival Ciné Comédies va inviter donc Benoît Delépine et Gustave Kervern.
Avec les Groland, enfin entre autres. Hein. Oui, c'est eux les invités principaux et c'est ça.
Donc
pas mal de leurs films qui vont passer d'ailleurs.
Voilà, donc c'est la 4e édition. Donc on se doute bien, Ciné Comédies sera basé principalement sur des films comiques.
Oui, bah c'est ça, on en avait déjà parlé l'année dernière. Tout le programme est sur, alors c'est Festival au singulier-Ciné Comédies avec un S. Et ce qui est bien, c'est que toutes les projections, si je ne dis pas de bêtises, sont gratuites. C'est juste qu'il faut réserver sa place dans les différents films de l'Anc. Je pense qu'il y en a à l'UGC, je crois, à Majestic, à Saint-Saul. Donc il y a pas mal de films de Belmondo. En plus, cette année, je ne sais pas si c'est une coïncidence, je pense que c'était déjà programmé à l'avance comme ça. Et il y a aussi l'exposition Belmondo, qui est déjà commencée d'ailleurs au Palais Saint-Sauveur. Donc sur la place Riour à Lille, avec une exposition spéciale Belmondo. Alors forcément, c'était prévu à l'avant. Ils n'ont pas pu monter ça au dernier moment, je crois pas. Mais ça tombe l'année à quelques jours près de la mort de Jean-Paul Belmondo.
Tu veux dire qu'il y a des gens qui écrivent, par exemple, des nécros avant
que
les gens...
Tu crois? Pour en enregistrer quelques-unes, pour passer, tu crois?
Mais on en a déjà quelques-unes, hein, ça tombe. Il faudrait fouiller. Alors, je vous propose de réécouter un peu de musique. Alors, pour justement faire un hommage à ce festival de la soupe, je vous propose d'écouter en avant-première ensemble quelques morceaux du nouvel album de Florent Pagny, par exemple. Encore un album à la guitare, Dominique. L'album s'appelle L'Avenir.
Ça serait pas le morceau de Daniel Dottel, mais en accéléré? Il y a du piano et personne qui chante.
C'est pas un album de guitare, non? Il vient de dire le titre de la chanson.
Oui, c'est marrant parce que ça fait 40 ans qu'il chante, mais sa voix ne bouge pas. À la limite, elle est même de plus en plus claire. Bon, les paroles non plus ne bougent pas.
Reynald est en train en direct d'aller sur Amazon pour essayer de se procurer l'album. En vinyle, c'est ça?
Ah, j'ai oublié qu'il fallait que je tourne l'écran avant de faire ça.
Alors attention, il a travaillé notamment au niveau de la programmation de la basse de la guitare avec Calogero.
Il prend les plus grands, hein. Waouh.
C'est comme la soupe à mémé qui a beau rester dans les pots, a toujours le même goût. Peu importe de quand elle date.
J'ai l'impression que c'est la même chose. Il pourrait ressortir son album chaque année, on verrait pas de différence.
Mais il y en a beaucoup, les comme ça. Après, je veux vous spoil les prochains. Il y aura du I Am, il y aura du Trio. Encore des gens qui se renouvellent. Alors, dans la musique, on peut s'écouter de manière plus collégiale. Je vous propose Thomann von Porcheri.
Porcheri. Oui, qui est un type connu sur le marché. Puis il a beaucoup collaboré, beaucoup travaillé avec pas mal d'autres artistes.
Pour un album qui va nous envoyer dans l'espace, puisque lui va retourner sur la Lune avec Back to the Moon, ce qu'on est un peu... ce qu'il...
Est-ce qu'on... Ah, donc il croit qu'on y allait, lui. Ok.
Eh ben, il te répond. La chanson s'appelle Yes, 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 Yes.
Watching the new world falling in the dark. Okay. How to embrace the shadows of the past. It's a funny game, it's wild, wild, wild. Falling in the dark. Keeping with me lightning. That is my only way. Won't you swim to me whole like the moonlight? It could be the dolphin and the wildfire. Okay. Shame on me. Shame on you, we disappear. The green and blue light, the space and time.
Vous êtes sur les ondes de Radio Campus en 106,6 FM et DAB+, ou sûrement sur notre site internet campuslille.com. Je vous invite d'ailleurs à réécouter nos anciens épisodes sur la rubrique programme et les podcasts. Vous cliquez sur la tranche horaire de la journée qui vous branche le plus pour... Voilà, parcourir ces dernières émissions. Alors notamment, hein, puisqu'on ne parlera pas du film Dune, mais par exemple, là, hier, il y avait le quotidien du cinéma avec son émission Les Aventuriers des Salles Obscures.
C'est ça, 14h le samedi.
Voilà, donc plein d'émissions sur Radio Campus à découvrir. Donc n'hésitez pas à fouiller ce site campuslille.com.
Là, on écoutait Thomann von Porcheri. Comme c'est très jazz, je me suis demandé s'il était programmé au prochain Tourcoing Jazz Festival qui arrive bientôt. Alors, je n'ai pas vu son nom dans la liste, mais j'avais raison. Il était déjà passé il y a quelques années au Tourcoing Jazz Festival. Voilà. C'est vraiment très jazz, c'est très sympa.
Il y a toujours des super invités sur ce salon, festival.
Très reconnu maintenant.
Voilà, donc c'était Back to the Moon avec l'album Supersonic. On va faire un petit flash rétro sur l'émission de la semaine dernière, puisqu'on avait reçu en invité les deux
organisateurs
du salon. C'est bon, on se complète maintenant, hein, c'est magique. Du salon de Lisles-les-Lannois. Alors Rénal, tu as eu l'occasion d'y aller faire un petit tour.
Ouais, j'ai eu la chance d'y passer dès le samedi matin, dès l'ouverture du salon.
En tant que visitor number one.
Ouais, effectivement, j'ai eu, au cas où ça deviendrait un très grand succès, que le salon, au bout de 10 ans, serait encore là et ferait comme Ludinor, serait sur 4 ou 5 sites différents, aurait plus de 10 000 visiteurs. Je serais fier de présenter ma photo avec mon prénom, avec l'étiquette numéro 1 du premier salon.
Tu vas peut-être devenir un mème vivant.
Qui sait, j'espère. Mais bon, sinon, effectivement, oui, le salon, enfin, donc le festival ludique était dans la salle André Desmulliers à Lisles-les-Lannois. Donc, c'était en plus entrée gratuite. Il fallait juste avoir le pass sanitaire valide, ce qui était contrôlé au début. C'était de 10h à 18h30. Et effectivement, malgré le week-end très ensoleillé qui donnait pas envie de s'enfermer, le fait que ce soit au week-end des Journées du Patrimoine, le fait qu'il y a eu plusieurs aussi inaugurations dans la ville de Lisles-les-Lannois, à droite, à gauche, donc qui drainaient énormément de monde local, c'était une bonne réussite. Il y a eu, je pense, d'avoir vu mon estimation 300 à 400 personnes diluées dans la journée, donc ça donne peut-être pas beaucoup de monde, mais pour une première édition d'un nouveau salon qui n'est pas forcément adjoint à Lille, enfin, proche de Lille, c'est quand même vraiment une bonne réussite. Et effectivement, il y a eu un petit stand avec des illustrateurs. Il y avait pas mal de mises en place pour les prototypes de jeux. Il y avait 5-6 étapes de prototypes, autant pour du gamer que pour du familial plus, on va dire. Tout le reste de la salle était prévu pour tu viens, tu t'installes, tu regardes le jeu, tu peux jouer.
Alors, j'ai pu voir quelques petites photos sur le WhatsApp de Rosemont en France interne, comme quoi tu avais quelques signatures de jeux de société. Alors, je vois que tu vas déballer ton sac en direct. Et encore lié à une précédente émission, puisqu'on avait reçu Aurélien et Steph pour son jeu Jurassic Cats, et je vois que tu as pu donc... Est-ce que tu as refait une partie d'ailleurs ?
Non, j'ai laissé ma place généralement pour les visiteurs du salon qui ne connaissaient pas le jeu et qui ont pu le tester. Et donc effectivement, on avait reçu donc Aurélien et Steve dans l'émission où il présentait son jeu, où il allait mettre en place au niveau
qui
Kickstarter,
était encore en proto, hein,
oui. Qui était encore en proto, et que le Kickstarter pour lui permettre de l'auto-éditer. Là, il est arrivé au stade où il présentait son jeu pour le vendre, parce qu'il avait réussi son Kickstarter, et il avait réussi à éditer ses 1000 exemplaires. Donc il avait mis quelques jeux en vente au salon. Chose aussi à dire que le salon, il n'y avait qu'une seule boutique de vente de jeux qui était Lille aux Jouets. Donc avoir réussi à faire un salon...
Qui est l'organisateur du salon.
Qui est l'organisateur du salon. Donc il faut dire qu'ils ont réussi à gérer la journée du salon avec une personne sur les deux qui était bloquée au stand de vente.
Et puis la boutique était peut-être en plus ouverte, la boutique en dur dans la ville.
Vu l'état de fatigue avancé...
Vous avez une affiche, on est au salon.
Voilà, pour tout renseignement, émerdez-vous. Mais pour revenir donc au jeu de Aurélien Steve, donc Jurassic 4, effectivement, les parties tournaient bon train, et il y avait le même engouement dans ces parties que nous on avait eu lorsqu'on l'avait testé avant l'émission. Et bon, j'ai craqué, j'ai acheté le jeu, je lui ai demandé une petite dédicace et il a fait volontiers. En même temps, il a déjà quelques cartes d'extension qu'il m'a mis avec le jeu. Et ayant regardé un petit peu les cartes et connaissant le jeu devient un peu plus fourbe et on se refait moins d'amis qu'on était venu avec. Donc c'est toujours un excellent jeu.
J'ai l'impression que tu viens de donner la définition d'un bon jeu de société. Non, mais et graphiquement, c'est un très beau jeu.
Oui, c'est ça, parce que je dis, hop, je cherche le nom de l'illustrateur sur la boîte, c'est ça, Vincent de Ruyck. Quoi, il n'était pas là, lui, pour te dédicacer là.
Non. Mais en même temps, il y avait aussi donc, le côté Pokémon, qui est donc dans la salle des Muliers. C'est une grande salle donc, communale qui est gérée par la mairie. Et il y a forcément une sorte d'estrade où, pour les concerts et autres, mis en place par la mairie. Et t'es mis là, tout ce qui concerne les Pokémon. Donc c'était bien séparé de la salle des jeux de société, des protos, et de temps en temps on avait une annonce pour ceux qui voulaient s'initier aux cartes Pokémon, ceux qui voulaient faire un tournoi de Pokémon pouvaient y aller, monter, tout était gratuit. Et enfin il y avait aussi la librairie Les Lisières qui était à l'entrée du salon, qui avait donc forcément son stand de livres à vendre, mais qui faisait aussi des animations, pouvait proposer des lectures, pouvait proposer des petits ateliers de, je sais pas comment expliquer ça, mais par tout ce qui est par rapport aux enfants, à l'imaginaire du jeu et du livre. Il y avait énormément de livres-jeux divers et variés, et ils avaient fait des petits ateliers où un petit enfant pouvait dire, bah, il rentrait, il voyait des petits bouts. Je sais pas, pour ceux qui connaissent Elmer l'éléphant, un éléphant qui est multicolore, qui est complètement quadrillé en multicolore. Et là, ils avaient fait des bonbons Dragibus, qui sont aussi multicolores. Ils disaient, bah, si tu veux remporter les bonbons d'Elmer, tu peux faire un petit atelier. Et ils tournaient une manivelle et tu voyais si tu devais faire un coloriage, un dessin, trouver un jeu des 7 erreurs ou tomber directement sur les bonbons. Donc ça, cet atelier-là d'Elisière, plus les jeux de société, plus les prototypes, plus la buvette, que j'ai bien testé pour être sûr, enfin, faut tout essayer dans un salon.
Bien sûr, bien sûr.
A fait que j'ai eu une très bonne impression de cette première édition. Pour quoi que ce soit, on pouvait nous renseigner. Et effectivement, ils pensent déjà à l'année prochaine et ils demandent toujours des remontées constructives. Donc effectivement, oui, très très bon salon. Il faut surveiller cette équipe et voir comment ça va évoluer pour l'année prochaine.
Puisqu'on les avait reçus la semaine dernière, donc une semaine avant que le salon ouvre, ce qui est vraiment un des moments clés pour eux, puisqu'ils sont en plein rush à coordonner un peu tous les intervenants et s'assurer donc de la bienfaisance du salon ici. Et on voyait déjà qu'ils étaient
nous. Dis-toi que pour ce type de salon, qu'ils ont été aidés par la mairie, supportés par la mairie, s'ils se loupaient, ils se loupaient en tant que commerçants de l'Isle-et-Lannoy par rapport à la mairie. C'est comme ça que je l'ai interprété. Donc ils avaient en plus ce fardeau sur les épaules en disant « Il faut qu'on montre à la mairie qu'on puisse faire quelque chose et que comme ça, l'année prochaine, ils continuent à nous aider et à nous aider un peu plus. »
Alors, j'étais pas sur place, mais j'avais pas l'impression qu'ils mettaient « Voilà, c'est un événement de l'île aux jouets ici. » C'était plus un événement ludique, quoi.
Ah oui, bah, c'est comme ça. Bah, ils veulent faire découvrir le jeu de plateau qui est, entre guillemets, hyper connu dans l'île et les environs. C'est vrai que l'Isle-et-Lannoy, habitant dans une commune qui est limitrophe à l'Isle-et-Lannoy, moi, j'ai jamais d'informations de cette ville. Je ne sais pas ce qui s'y passe, sauf si je vais chercher les infos. Donc là, que deux gérants d'une boutique de jeux de société et de jouets, qui est rare en ce moment si tu ne veux pas passer par les GRS et autres, Amazon et compagnie, se disent, bah, nous, on va créer un salon. C'est quand même pas mal.
Ils avaient bien communiqué, parce que même moi, j'en avais entendu parler par des auteurs de jeux, de créateurs de protos qui disaient, bah, on va à ce salon-là, ça nous intéresse, etc. Ouais. Donc,
Et même un des exposants qui faisait son prototype a parlé avec le mari, donc l'organisatrice du salon, qui disait « J'habite Paris, mais maintenant, avant, j'habitais l'Isle-et-Lannoy. » Et donc, a aussi drainé le côté nostalgique du Nord, nostalgique de la ville, et donc de revenir pour présenter là, même si avait plus, entre guillemets, à perdre, à présenter, à faire autant de routes, pertes financières, plus que de représentation. Parce que c'est pas dans ce salon-là que t'allais trouver un éditeur.
Alors c'est marrant parce que tu lèves un point et qui me mène à une réflexion maintenant. Est-ce que dans l'univers du jeu de société, est-ce que vous êtes vraiment retourné sur Internet, puisque maintenant la majorité des produits sont vendus sur des grandes plateformes, hein, je vais pas citer celles qui commencent par un A, mais est-ce que vous avez déjà acheté beaucoup de jeux de société à ce niveau-là, ou est-ce que vous préférez pas...
Jamais.
Voilà. Est-ce que vous préférez ce petit contact que vous avez en boutique, et surtout cette passion qu'on peut tous avoir, même si on ne compte rien acheter, on va visiter la boutique pour voir les nouveautés, etc.
C'est particulier parce que nous, on a de la chance dans le coin, dans la métropole de Lille, d'avoir énormément de boutiques.
Et énormément donc, de joueurs aussi.
Voilà. Ouais. Ou de points de vente. Il n'y a pas des boutiques de jeux, mais des librairies qui font.
Les seuls achats en ligne que je fais, c'est des achats en ligne, par exemple, par le site dont on a parlé, par Ocasio. Donc, mais ce n'est pas d'une structure comme Amazon et compagnie. C'est particulier à particulier. Et donc, tu peux discuter avec la personne en ligne, et des fois, tu te rends compte que...
Le seul cas où j'achète en ligne, c'est quand il y a des soldes sur des grosses ventes. Les cités, les gros magasins très connus rondes qui font des fois des ventes parce qu'ils ont des stocks énormes, et là, c'est du bradage. Mais je veux dire, à 5 euros le jeu qui coûte normalement 40 euros, c'est difficile.
Ou des jeux qui sont vendus dans d'autres pays et qui sont extrêmement difficiles, ça va peut-être...
Ou des jeux qui sont disponibles qu'en ligne, genre les Kickstarter et ce genre de choses. Mm-hmm. Des choses que tu peux trouver qu'en ligne. Donc là, oui, il n'y a pas vraiment de choses.
C'est incroyable de voir les gens qui fouillent le Kickstarter livres et qui se retrouvent avec des bibliothèques entières de jeux de société qui sont toujours emballés, même à l'heure actuelle, alors qu'ils ont participé il y a 5 ans.
Ouais, surtout que quand ça arrive, leur hype est passé sur un autre produit qu'ils sont en train de backer, derrière ils reçoivent le jeu, ils font « Ah oui, c'est vrai, il y a
ça ». Avec le fonctionnement Kickstarter, tu commandes un jeu, tu connais la date de sortie, mais le temps qu'il soit fabriqué, si c'est un jeu à figurines qui soit fabriqué en Chine, on ne parle même pas du Covid en plus, donc, et qui vient après en bateau, tu sais que ton jeu, tu vas l'avoir, tu vas l'acheter maintenant, le Kickstarter va se terminer dans 3 mois, tu auras peut-être ton jeu dans 1 an. Voire
déjà,
plus,
déjà
et entre deux, tu as déjà 3 autres Kickstarter qui sortent avec d'autres jeux. Mais c'est vrai qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est tellement valable, si tu as l'argent, t'es pris dedans.
Ouais. Après, ça reste le même type de pensée et de faire que ceux qui prévoient leurs vacances un an à l'avance, parce que comme ça, ils ont des meilleurs prix. Ouais. Et après, quand ils sont dans leurs vacances, ils pensent à l'année prochaine.
Tu pars pas en vacances tous les 3 mois, tu peux. Mais...
Non, mais, mais c'est le même style de pensée, quoi.
Oui, mais j'ai pas envie d'aller dans ce pays, mais c'est tellement pas cher que tu peux pas résister. Quoi. C'est,
et que l'année prochaine, je sais que je pourrais poser 2-3 jours.
Je paierais plein tarif là, alors que j'ai un quart de. Voilà, c'est ça. Ou quand tu commandes les trains ou les avions au dernier moment, parce que c'est vraiment pas cher, etc.
Ouais.
Quitte à aller dans un endroit.
Mais pour revenir au salon, bon, comme c'était une première édition, il y avait forcément des petits couacs de temps en temps, mais. C'est normal, faut apprendre. Faut apprendre par l'expérience. Tu peux pas tout connaître dès le début. Heureusement qu'il y a des personnes, ne serait-ce que des, comme la Fée des Jeux, ou il y avait une personne qui représentait la société Gigami qui était venue en tant qu'animateur pour 4-5 tables, qui pourrait alors, je pense, leur remonter quelques infos sur les petits couacs que lui a eu pendant la journée. Et ça ne pourra que les faire progresser. Et franchement, c'était des couacs mineurs qui, les 9 dixièmes des personnes qui étaient là n'ont rien vu.
Oh, puis ça a eu du succès. Il y a des gens qui venaient qui ne connaissaient pas forcément le monde du jeu. Oui. C'est ça. Donc c'est vraiment le principal.
Et là, j'ai eu l'impression de revoir le Ludinor il y a X années où, quand tu venais, tu voyais la mère de famille avec 3 enfants et une poussette qui venait et qui disait on vient parce qu'on va jouer avec mes enfants.
C'est ouvert.
C'est ouvert.
Il y a de la lumière. Il y a
Alors que maintenant, il y a tellement de long et Ludinor que tu vois même plus la poussette.
Non, mais c'est même la poussette, elle reste dehors en disant c'est bon, j'avoue, je suis vaincu.
Il y a des jeux dehors.
Alors, je vois que tu as beaucoup parlé. Est-ce que tu veux un peu de soupe pour
reprendre pour réhydrater un petit peu tout ça? Une soupe au houblon, s'il te plaît.
Alors, maintenant, c'est très commun sur Internet lorsque vous faites vos devoirs ou que vous devez travailler. Vous écoutez un peu de chill music.
Du lo-fi.
Du lo-fi. We need some changes. On entend le petit bruit vinyle.
Allons au fond de la patrie, ne soyons pas tristes, mettons le fric au Panama, tranquille, on nous a pas pris.
Bah oui, que devient IAM ?
C'est quoi cet accent du film ? C'est du IAM lo-fi.
Alors, j'ai vu dans les bandes annonces, lorsque j'ai été voir ce film de science-fiction de Denis Villeneuve, qu'il y avait un film NTM qui allait sortir.
Ah oui, un biopic.
Voilà,
c'est ça. Intéressant.
Il n'y a pas eu un documentaire déjà de fait ?
Ah oui, mais il y en a plein. Mais
j'aurais choisi un autre mot que intéressant, mais pourquoi pas.
Avec des acteurs qui vont jouer, c'est ça. Hein. Ils pourraient jouer à leur propre rôle.
Alors, IAM a rejeté cette option pour refaire un album à la place.
Et est-ce que si tu fais un biopic et tu joues ton propre rôle, est-ce que pour la justice ça compte comme une reconstitution? C'est pour ça qu'ils osent pas.
C'est pour qui est l'auteur.
Donc bien sûr ici c'est DJ Keops qui porte ce projet à bout de bras.
It Change, c'est le nom de la chanson ou de l'album?
Change, c'est le nom de la chanson. Comme j'arrête pas de me gourer sur les noms de
balles. C'est pas change. Si vous allez chez votre disquaire, demandez change. Quoi qu'on va pas chez le disquaire acheter du rap.
Maintenant, j'ai des doutes lorsque je prononce le nom de l'album. Je pense que l'album s'appelle Deuxième Vague.
C'est pas Nouvelle Vague, c'est Deuxième Vague. Ouais.
Bon, écoute, pourquoi pas. Je préfère écouter ça que du Daniel Auteuil, alors que je suis pas forcément un IAM fan.
On voit bien toutes les références.
Alors, est-ce qu'on se découvrirait pas du coup du Gaspard Claus?
Là, ça va être découverte.
Alors, qui fait des chansons de 8 minutes, mais j'en ai pris une de 2 minutes 46.
Aïe, 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 aïe.
La chanson s'appelle 23-59. c'est très instrumental, hein. Je vous laisse découvrir ça. Gaspard Claus pour son album Tancade avec la chanson 2359.
Pas mal du tout. Oui, effectivement, c'est un violoncelle. Son nom me disait quelque chose quand même. Mmh. Effectivement, alors ça rappelle des sons. C'est vrai que j'ai regardé vite fait sa bio. Il a participé à pas mal de musique de films ou de séries ou de documentaires. Effectivement, c'est des sonneries qu'on a déjà entendues. C'est pas mal du tout ça. C'est son premier album solo.
On va parler d'une actualité et j'ai l'impression qu'on en parle chaque année, c'est l'arrivée des nouveaux emojis pour cette édition 2021. Alors ici, appliqué au smartphone. Alors, et on a certaines, comment dire...
Originalités.
Oui.
Tentatives.
Très étonnantes. Alors...
Plus rien ne m'étonne.
Oui, mais là ça peut être perturbant pour certains. Alors, on voit bien que le but ici, c'est d'essayer, alors peut-être de plaire à tout le monde, ou de vexer personne.
De toucher toutes les communautés, toutes les... C'est ça. Bah déjà, il y a pas mal d'emojis qui existaient déjà, mais qui se sont retrouvés dans toutes les couleurs. Donc, tu peux avoir des visages ou des mains ou des objets qui sont... alors souvent, les emojis, ça peut être jaune, ça dépend des plateformes, mais souvent, ici, ils sont en noir et blanc. Mais souvent, c'est, par exemple, si tu as des mains ou des poings fermés ou une main qui fait le signe V, etc. Souvent, c'est une main, ça peut être une main blanche, enfin blanche, on va dire, caucasienne. Pour, hein. Mais là, tu as des mains de toutes les couleurs de la société.
C'est ça, on a donc des toboggans, on a des bouées, on a des nids d'oiseaux. Alors, tout ça qui peut sembler anodin, mais on a... Ce qui fait extrêmement parler des emojis en ce moment, c'est l'emoji de l'homme enceinte. Ou comme Reynald pourrait le dire, l'homme ballonné.
Moi, je trouve que c'est plutôt une représentation masculine d'une personne qui a mal au bide, mais bon, après, et qui a trop mangé, mais pourquoi pas. Pourquoi pas enceinte, ouais.
Et voilà, le but, c'est de justement dire que...
Il y a des hommes enceintes. Des femmes donc, qui ont changé de sexe et qui ont toujours leurs organes reproducteurs et qui peuvent tomber enceinte. Il y a quelques cas. Et il y en aura de temps en temps. Pourquoi pas ? Je suis sûr qu'ils sont très contents. Je crois qu'ils s'en foutent complètement, en fait.
Voilà, on est... C'est peut-être délicat comme sujet, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de découvertes.
C'est vraiment pour faire parler de soi, quoi. C'est la communauté, le comité de sélection des emojis, ils ne savaient pas quoi faire. Oh mon Dieu, il y a même un emoji cœur avec les mains. Oh mon Dieu.
De toutes les couleurs, de toutes les couleurs, bien sûr. Maintenant, tu es obligé, lorsque tu fais un signe, de les avoir en plusieurs éditions.
Ah, ça devient très compliqué parce que, par exemple, il y a l'emoji où tu as des mains qui se serrent. Deux mains qui se serrent.
Et il n'y a pas d'emoji de gel hydroalcoolique, c'est ça que tu vas me dire.
Ah, c'est peut-être. À mon avis, ça devait déjà être fait l'année dernière. Si ça existait. Non, mais le problème avec. Alors, quand tu as une main, ça te fait la main. Enfin, avec les différentes teintes qui vont du blanc au noir. Donc là, d'accord. Mais quand tu fais l'emoji avec deux mains qui se serrent, il faut qu'il y ait les deux mains et toutes les teintes. Donc. T'as toutes les combinaisons pour la main gauche, toutes les combinaisons pour la main droite, donc ça fait d'autant plus de combinaisons. C'est ça à devenir fou, quoi.
Mais c'est peut-être intéressant de voir que les emojis sont peut-être un symbole de ce qu'est la société aujourd'hui, ou en tout cas des combats politiques qu'il peut y avoir.
Des combats, des peurs, des préoccupations des gens.
Surtout que tu dis qu'au début, tu faisais les emojis, tu balançais une sorte de smiley qui était complètement anesthésié de tout
sentiment,
de tout, et qui représentait une émotion ou un comportement quelconque, sortant complètement de tout ce qui était social, de tout ce qui était « je suis une fille, tu es un garçon, je suis noir, tu es caucasien, je suis tout ce que tu veux et toi autrement ». Et ça représentait juste un transfert de messages que tu ne voulais pas écrire, tout simplement.
Oui, parce qu'un emoji, le petit smiley jaune... Ça ne représente personne.
C'était voulu dire, je suis content de ton message.
Je souhaite à personne d'avoir un bébé qui ressemble à ça à la naissance.
Voilà. Mais c'était vraiment le côté neutre et c'est pour ça que ça a marché tout de suite. Parce que tu n'avais pas de transfert de haine, ni de transfert de religion, ou de transfert de ce que tu veux qui pouvait poser problème. Alors que maintenant, maintenant, ça se dégrade en... je dois faire une main qui est un peu marron, mais pas trop noire, parce qu'en fait, je suis de tel type d'origine, machin. Non, c'est...
C'est ça. On sent qu'il y a un côté, une espèce de société commerciale, un petit peu comme il y a comment ça s'appelle, pendant une journée ou une semaine ou un mois, tu as des sociétés qui se revendiquent arc-en-ciel, je ne sais plus comment ça s'appelle, on est ouvert, tout LGBT, etc.
LGBT+,
c'est ça, donc ils repeignent leurs murs ou leurs voitures, ils mettent des autocollants aux couleurs du drapeau arc-en-ciel partout, puis deux jours après c'est fini, c'est oublié. C'est comme le greenwashing, quoi. C'est que de la communication. On se fait passer pour vert, pour inclusif, pour ouvert. Alors que
Est-ce que c'est pas mieux que rien ? C'est la grande question.
Oui, mais là, ça fait beaucoup. Là, ça commence à devenir compliqué.
Alors, tu me parles de couleurs. Un groupe qui me fait voyager dans cet univers, c'est peut-être Trio. Sans transition, pour le coup.
Là, c'est afro. Hein. C'est pas mal.
Faut pas changer, eux.
Et ben voilà, c'est encore la bonne soupe. Alors, Trio veut plaire à tout le monde, donc l'album s'appelle Ta Planète. C'est pas notre planète, c'est ta planète.
Du greenwashing, hein. Vous engagez Yannick Amar ? Il avait fait à fond, hein.
Bon, je me suis encore gouré, c'est la chanson qui s'appelle Ta Planète et l'album Champ de Bataille.
On ne t'en veut pas. Encore sous le choc de ta séance de cinéma, on l'a bien senti.
La semaine prochaine, restez avec nous si vous voulez en savoir plus sur l'univers de Dune, de Frank Herbert, bien sûr.
Je crois qu'on va faire une contre-émission.
On va faire un appel aux dons pour que Reynald aille voir le film de 2h40.
J'ai autre chose à faire. Bon d'accord, m'abrutir sur un mémo RPG, mais ça compte quand même.
Allez.
C'est moins long qu'une partie du jeu d'une. Ça dépend.
Ça dépend du jeu d'une.
Allez, viens, Dominique.
Ça va aller.
Est-ce que tu veux pas nous laisser des petits messages?
Ça me donne juste envie de relire les bouquins, c'est tout, franchement.
On appuierait sur un bouton et on t'entendra dire c'est de la merde.
J'écouterai, je balancerai des messages.
Bon, on peut faire ça, on peut enregistrer des phrases de Dom, puis après utiliser un desk et puis les balancer au bon moment.
Ah, je pourrais faire ça, enregistrer des...
Ouais.
Alors Dominique, j'ai gardé, puisque dans ce potage qu'on a préparé, il y avait également l'album de Lindsay Buckingham. Alors est-ce qu'on n'écouterait pas ça en musique de fin du coup ?
Même pas peur. On n'est jamais déçu avec lui, de toute façon. Lindsay Buckingham, on le rappelle, c'est le guitariste, enfin un des guitaristes Fleetwood Mac de la grande époque, ça dépend des goûts de chacun. Il avait rejoint le groupe avec... C'est terrible la mémoire aujourd'hui. Ah mon Dieu. Et dans les années 70, il avait complètement renouvelé Fleetwood Mac et ça avait relancé le groupe.
Stevie Nicks.
Stevie Nicks, merci. C'est grave.
La madame aux grandes narines.
C'est ça. Grande paille.
Ouais, il était bien. Il faisait la paire, hein, ces deux-là.
Ah bah du coup, l'album continue. On écoute Champ de bataille maintenant, l'album type. Mais on va pas pousser le bouchon trop loin. Du coup, Lindsey Buckingham sort un album qui s'appelle Lindsey Buckingham. Là, vous êtes en train de me dire, mais attends, il est encore en train de se gourer. Mais non, pas du tout. Et il a fait plusieurs tentatives hein, pour essayer
de
payer ses impôts. Et il avait même repris... Alors, il s'est fait virer de Fleetwood Mac. Hein, C'est important à noter, hein. Peut-être par Stevie Nicks, du coup. Alors, la chanson qu'on a pris complètement au hasard s'appelle Blue Light.
J'ai pas regardé l'album. Je suis sûr qu'il a rappelé tous ses copains de Fleetwood Mac pour jouer sur l'album, c'est ça qui est amusant. Tous les membres de Fleetwood Mac avaient fait leur album solo à l'époque, mais sur scène, ils appelaient tous leurs potes de Fleetwood Mac pour jouer dessus, c'est ça qui est amusant.
Sauf peut-être Stevie Nicks qui était vraiment parti de son côté à l'époque.
Elle a toujours été partie, de toute façon.
Voilà, c'était la fin de ce épisode de Heureusement en France. On se retrouve la semaine prochaine pour un spécial Dune en l'absence de Dominique.
Et Reynald.
Oh non. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
À plus.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.